On est en compagnie de nos invités, Paulina. Bienvenue, Paulina.
Bonjour. Merci.
Et Joachim.
Bonjour.
Bienvenue, Joachim. Merci. Merci d'être venu de grand matin, enfin de grand matin, de plus ou moins grand matin, d'avoir gravi toutes ces marches de la radio. Vous êtes tous les deux membres d'un réseau qui s'appelle le réseau Malaherbe, donc réseau Mauvaise Herbe. Et vous êtes venus en particulier nous parler aussi de cet appel qui a été lancé par les apatistes, donc les apatistes du sud-est mexicain, les Etelen, un appel pour la défense du territoire, enfin des territoires et de la mer Terre. Et donc, c'est un appel, comme les apatistes ont l'habitude d'en lancer depuis 30 ans, donc un appel à action et lien de par le monde. Et donc, ça fait suite à un peu de remue-ménage au Chiapas. On a parfois l'impression ici qu'il ne se passe plus rien, mais ils n'ont jamais autant vécu, j'ai l'impression, et été autant vivants et en action que ces derniers mois. Donc voilà, je ne sais pas par où vous voulez commencer, si vous voulez d'abord présenter le réseau ou bien si... Et donc le micro est à vous dans n'importe quel sens.
Ok.
oui, bah, bonjour, merci pour l'invitation. Du coup, on va un peu expliquer d'où naît le réseau. On s'est formé, on s'est connu à l'événement passé qu'a organisé Paulina sur l'autre appel de l'EZLN et du CNI. Et du coup, après, on est resté en continuation, on est resté en contact. Et avec nos affinités politiques, on a commencé à parler, on a voulu réagir. On veut passer de notre passivité à l'action. Et c'est pour ça qu'on a décidé de former notre réseau Malaherbe. Et voilà, on est en train de naître, en fait. On est en train de discuter, de commencer à s'organiser. Et on a voulu prendre cet appel de l'Ejército Zapatista comme première organisation qu'on allait faire ici en Belgique, en tant que réseau.
Et donc, quand vous évoquez l'autre événement qui s'est passé, c'était aussi à l'appel des apatistes, et c'était l'été dernier, si je ne me trompe pas, il y avait aussi eu un appel. Pour les auditeurs, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus aussi?
Bien sûr, bah, oui, c'était comme tu viens de dire aussi, il y a beaucoup de appels qui se passent dans différentes lignes de temps. Ça dépend aussi de les contextes et de les problématiques que les Etelen font face.
Mais je crois que si, il faut dire que cet appel, c'est pas seulement de les Etelen, c'est aussi un appel de les Congrès national indigène qui travaille vraiment, enfin, ils sont tous les deux sont frères de bataille, on va dire. Voilà. Alors aussi les Congrès national indigène, ils sont une façon de organisation qui cherche l'autonomie. Et alors il y a beaucoup de membres de les Congrès qui sont dans différents endroits au Mexique et que les gens déjà vivent en autonomie vraiment pour une nécessité. Enfin, il y a beaucoup de choses dans le contexte mexicain qui fait un peu que les gens prennent les armes. Et il y a beaucoup de membres de le Congrès national indigène qui sont partis de différentes communautés. Alors tous ensemble, ils viennent de faire un travail ensemble depuis 1996. Et là, voilà, le dernier été, on a répondu à un appel. Que ça a répondu un peu pour visibiliser toute l'intimidation militaire que pas seulement les Etelen du Chiapas commençaient à sentir. Il y avait beaucoup d'intimidation militaire dans ce moment-là et aussi à différentes communautés des Congrès national indigène. Et là-bas, enfin, dans ce moment-là, on a répondu. Et depuis ce moment-là, on a aussi pris à notre corps ce message qu'il dit que les gens, enfin les Etelen et les CNI disent chaque fois, c'est enfin organisez-vous. Uh-huh. Et voilà.
Et justement, pour revenir un peu en arrière, lors des dernières élections présidentielles, justement, le Congresso Nacional Indígena avait discuté aussi avec les ETLN et pour justement envoyer présenter une représentante, justement, c'était une femme indigène et c'était qui n'a pas passé les barrières, mais c'était le message qui a parfois un peu été mal compris, parce que le ZLN, depuis toutes ces années, a un message comme quoi le pouvoir, c'est le mal au gouvernement, c'est le mauvais gouvernement, on ne va pas jouer là-dedans, on ne veut pas prendre le pouvoir, justement. Et du coup, c'est. Quel était le message que le CNI et les ETLN voulaient faire passer en présentant un acte fort aussi, malgré tout.
Bien sûr. Et bon, en fait, je me suis commencé à mobiliser à partir de cette initiative-là. Moi, je veux dire plutôt, c'est ce que je comprends et c'est ce qui m'a fait mobiliser par rapport à cette initiative. Et c'est une initiative. Enfin, je veux dire qu'il y a il y a différents sens à lire par rapport à ça. Et c'est une initiative qui voulait irrompir complètement toute la sphère de politique oppressive au Mexique. Et quand même, c'était pas juste lancer une candidature, puisque c'était choisir comme les porte-parole du Conseil national indigène. Et c'est un conseil qui a fait tout ce travail à partir de l'Assemblée. Alors, ça veut dire qu'elle était pas, enfin, c'était une façon même de faire une proposition et laquelle ils vont changer la façon que les gouvernements au Mexique, enfin, fonctionnent, quoi. Alors, les propositions, c'était d'envoyer la porte-parole du Conseil national indigène. Elle était que en porte-parole, et ça, c'était clair. Et je crois que c'était une façon de se civiliser, premièrement. Et une deuxième phase, un deuxième point, c'est ça. Essayer d'irrompir la sphère politique, que c'est une sphère de pouvoir, oppressive, et c'est les deux facteurs qui me sont fait mobiliser. C'était clair que c'était son proposition, c'était pas pour gagner. C'était clair que la différence entre les gens qui soutiennent à les Congrès national indigène, les NAI, c'est des gens qui même ils sont pas d'accès à Internet, quoi. Et même tout le processus pour la candidature, signer et tout ça, c'était vraiment ça se voit que la discrimination, c'est un outil très fort utilisé par les gouvernements du Mexique. Et voilà, alors je veux dire que c'était une façon très intelligemment de les ETLN et les Congrès national indigène de se civiliser et même faire aussi visible que les autres candidates qui étaient dans ce moment-là, Andrés Manuel López Obrador, pour la présidentie de Mexique, il n'était pas comme leur discours à gauche. Il n'était pas vraiment à gauche comme il disait. Il était là aussi pour dire, cette gauche, c'est simulé. Et si est-ce qu'il gagne, ça va être la répression, ça va commencer forte. Et on est là aussi pour le dire, parce que c'est pas qu'on croit dans l'organisme gouvernemental, mais quand même, on va essayer de, interrompre un peu cette sphère oppressive, quoi.
Et justement, ces craintes des zapatistes, elles ont été justifiées, parce que une des premières mesures que Camlo, le président, a faites, c'était de faire cette guardia présidentielle guardia nationale, mais qui avait pour objectif aussi de
la répression.
Répression. Et aussi, cet appel de défense de la Madre Tierra, donc on sait que depuis des années au Mexique et dans l'Amérique centrale, il y a ces grands projets de barrages hydrauliques, enfin le corridor Puebla-Panama, l'isthme de Tehuantepec, enfin des méga projet. Et donc, López Obrador, il a fait une espèce de rituel, justement, pour dire qu'il respectait les...
Oh, c'est horrible. Oui, c'est juste horrible les façons, les discours politiques qu'il a intelligemment commencé à faire différents discours politiques pour essayer de bouger l'opinion publique par rapport à son image de gauchiste. Alors voilà, il a fait tout un rituel pour demander le permis de la mère terre. Pardon. Et pour faire les trains mayas, qui aussi il n'y a rien de maya sur les trains. Les trains, c'est une train de pillage. Voilà. Mais il a fait tout un rituel pour demander à la mère terre, si est-ce qu'on peut commencer à ramener des projets, méga projets d'extraction des ressources. Oui, bien sûr, parce que, il a vraiment, il est très intelligent par rapport à son image publique. Il est ouvertement contre le néolibéralisme, mais tous ces projets, c'est clairement néolibéral. Ils sont partis de même, des initiatives des présidents, le dernier président dictateur au Mexique, c'était Porfirio Díaz, et c'était les maîtres néolibérales au Mexique, et cette initiative de par exemple, les trains interocéanicos, c'est une des initiatives de Porfirio Díaz qui, López Obrador, ici, avec son philosophie hyper gauchiste, anti-néolibérale, il vient le pas proposer, mais l'imposer. Et je crois que ça, c'est aussi pour ça que tout Mexique commence à se bouger, puisqu'on ne veut pas cet projet, quoi. Mm.
Avant de revenir sur l'appel concret et la convocation à des actions au niveau mondial, je propose qu'on fasse une mini pause musicale, enfin mini ou plus grande. Et vous avez apporté de la musique, en fait. Vous avez un large choix, une belle playlist, m'avez-vous dit.
Ça marche. En fait, on va commencer avec un cumbia. Et c'était en fait la cumbia de Marichuy, que c'est la porte-parole de le Conseil national indigène, quand toute cette campagne a commencé par rapport à son candidature. Un groupe musical de cumbia, ils ont fait cette chanson, et c'est génial, quoi. Alors, et voilà.
Marichuy, color de la tierra, anticapitalista del corazón. Marichuy, color de la tierra, anticapitalista del corazón. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No duden que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No duden que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. Democracia, libertad y justicia es el encanto de la humanidad. Democracia, libertad y justicia es el encanto de la humanidad. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. Marichuy, color de la tierra, anticapitalista del corazón. Marichuy, color de la tierra, anticapitalista del corazón.
No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No duden que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No duden que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. Democracia, libertad y justicia es el encanto de la humanidad. Democracia, libertad y justicia es el encanto de la humanidad. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria.
Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Panique, les promesses de l'aube, et on est en compagnie de Joaquim, Paulina et Marine qui nous a rejoint. Bienvenue Marine dans les studios de Radio Panique.
Merci.
Et je vais checker ton micro puisqu'on n'a pas eu le temps. Normalement, maintenant, ça devrait aller. Du coup, avant la pause musicale et cette cumbia, on évoquait l'arrivée au pouvoir de López Obrador et le fait qu'il avait mis en place toute une série de politiques à la fois répressives, mais aussi liées à ces méga projets d'accaparement du territoire et des territoires aussi, principalement des populations indigènes, mais pas que. Et du coup, cette répression et cette volonté de s'accaparer les territoires, ça mène aussi à l'assassinat de défenseurs de la terre, justement, et de paysans indigènes, que ce soit dans le sud du Mexique ou ailleurs dans le pays, et notamment de Samir Flores, qui est mentionné justement dans cet appel de cette convocation. Donc, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce contexte et sur justement cette situation violente?
En fait, c'est le deuxième appel qu'il a le nom de Samir Flores. Mais voilà, cette fois-ci, bien sûr que c'est aussi pressant. Parce que Samir s'est développé comme un symbole de lutte et de tous les défenseurs de la terre par là. Alors Samir Flores Soberanes, c'était un défenseur de la terre. Il s'est opposé complètement à la gasoduc, c'est un méga projet qui est en Morelos. Il était ouvertement contre les projets et il a fait beaucoup de travail sur son communauté, beaucoup d'organisations communautaires. Les projets dans un moment là, il était arrêté pour toute la pression communautaire et voilà. Alors Samir Flores, avec tout ce travail de communauté, il commence à être une menace, surtout dans cette avec cette nouvelle face au Mexique, en lequel AMLO il est président. Alors, c'est ce qui est passé, c'est qu'il a publiquement commencé à poser des questions par rapport à les projets, par rapport à qui est-ce qui va gagner, où est-ce que c'est les analyses des risques par rapport à la population et tout. Et voilà, les jours prochains, il est assassiné en face de chez lui. Et alors, bien sûr que c'est un homme qu'on n'oublie pas, on ne pardonne pas. Et il est là, pressant, pour demander justice, pour savoir c'était qui l'assassin, mais aussi pour dire que ça, ce n'est pas le seul cas. Le seul cas, il y a aussi minimum 9, je cite tous les nombres, je ne sais pas si ça sera bien de mentionner, tous les camarades qui sont assassinés. C'est un peu dommage de le dire, même comme ça, parce que c'est une liste, quoi. C'est une liste des gens qui étaient assassinés là maintenant, dans avec ce nouvel gouvernement, qui est ouvertement Et le gouvernement contre les gens qui défendent la terre, quoi. Et alors, voilà cet appel en une première. Ça, c'est le contexte de l'appel. Il faut dire leur nom. Il faut dire que l'État au Mexique fait un. Il est en guerre contre les défenseurs de la terre. Mais aussi, ça c'est les paroles des mêmes peuples, il est en guerre avec les peuples originaires. Et voilà, c'est un peu le contexte. Et voilà, Samir, on a pression de Samir, Samir vivait et il s'est multiplié. Et ce qu'on reprend ici, c'est son lutte, que c'est notre lutte, et c'est pour ça que cet appel a comme nombre Samir somos todas y todos, on est tous Samir, on, voilà, voilà, c'est ça. Et tu veux parler de l'appel?
Du coup, nous, on répond à l'appel, on veut un peu visibiliser les problèmes, on s'accroche à ce qu'a fait à l'appel de l'Ejército Zapatista. L'appel, il est aussi en trois points qui sont assez importants. C'est du coup tous les assassinats qu'ils ont occurrus durant cette année. C'est aussi le capitalisme en général. L'Ejército Zapatista, il est en train de condamner l'hydre capitaliste parce que il voit dans sa vision de la défense de la terre-mère et qu'on est tous en fait une partie de cette terre qu'on est en train de tuer la terre d'où nous vivons. On est en train de nous tuer nous-mêmes du coup par ce biais-là. Et le troisième appel, c'était quoi? Le troisième point. Ah oui, c'était évidemment tout le système patriarcal, lequel représente le système capitaliste. C'est un peu comment, en tant que patriarcat, on utilise un certain corps, le corps de la femme, le corps de la terre dans ce cas-ci. Et alors, comme réseau, on a voulu répondre à cet appel parce qu'on croit très important de visibiliser la lutte ici. On est quand même dans la capitale de l'Europe. C'est important d'ici commencer à générer des mouvements sociaux qui arrivent à réclamer pour tout ce qui se passe là-bas. On n'est pas indifférent et on voulait aussi apporter nos conclusions, nos leçons de ce qu'on apporte de là-bas pour commencer à les appliquer ici. C'est très important, pas seulement visibiliser les luttes, en parler, mais sinon commencer à réagir, à s'organiser comme ils ont toujours appelé. Et à travers de ça, on veut apprendre, on veut essayer de pratiquer ce qu'ils ont fait là-bas pour le faire ici, s'autonomiser de l'État, commencer à créer du contre-pouvoir, des communes qui sont autonomes et... On veut en fait changer tout ce mode de vie, quoi, tout ce système, tout ce qui inclut l'assassinat, on va dire, de la terre-mère et notre futur.
Et justement, comment ça peut résonner ici en Europe en 2020 et aussi avec les jeunes, quoi, enfin, c'est ce que vous êtes, jeunes.
Oui, on est encore jeunes.
Et donc, comment justement des jeunes... plutôt urbains aussi, peuvent se reconnaître dans des luttes qui sont plutôt le fait de paysans indigènes mexicains. Comment faire le lien et comment justement relier justement cet aspect de fort lien à la terre que les zapatistes ont forcément et nous qui habitons ici dans une ville comme Bruxelles ou comme Paris ou comment ça peut se rejoindre, quels sont les ponts qu'on peut jeter entre entre ces rives, on va dire.
Oui. Alors moi j'aimerais parler de l'expérience qui est en train de se dérouler à la ZAD d'Arlon qui s'est créée il y a peut-être 3 mois maintenant, fin novembre. C'est pas forcément directement une expérience urbaine, mais en tout cas en termes de d'expérience d'autonomie et comme disait Joaquin, pour se libérer de l'État en résonance avec tout ce qui se fait au Chiapas, c'est ce qui me semble un peu à propos. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, à Arlon, près de la frontière du Luxembourg, il y a une grosse pression de croissance immobilière, etc., comme il y a justement le Luxembourg juste à côté. Et il y a eu un ras-le-bol assez général, que ce soit de la population locale d'Arlon ou alors de nous tous en général, de voir cette terre se faire bétonner de tous les côtés. Et entre Arlon et l'autoroute, il y a 30 hectares de forêt qui sont en friche depuis 50 ans, qui ont pour projet d'être bétonné pour construire des bureaux. Et là, depuis fin octobre, il y a des gens dans la forêt qui se sont installés pour que cette forêt reste une forêt. Et ils ont créé donc une zone à défendre, une zone d'autonomie, un espace où il y a cette expérience en fait d'autogestion et de liberté qui peut se mettre en place, où tout le monde est le bienvenu, la bienvenue, où les choses sont décidées en commun avec des assemblées générales, où par la débrouille, par la récup, par l'entraide et la solidarité, on construit des cabanes, de quoi vivre et de quoi peut-être se reconnecter à la terre et peut-être retrouver une relation plus en harmonie, plus en équilibre avec elle, qui où il s'agit pas juste d'en tirer profit, d'en tirer ses ressources, mais de se réinscrire dans un équilibre et voilà, où chacun peut être libre d'être qui il est et de vivre selon ses choix en respectant les autres, la terre, etc.
Et justement, il y a eu une certaine opposition, justement, à cette opposition à la Z, et donc les choses ne sont pas, même si une bonne partie, je pense, de la population est contre cet accaparement bétonné de la terre, c'est quand même pas très facile. Quels sont les enjeux justement au Mexique? On voit ça va jusqu'aux assassinats des militants. En Belgique ou en Europe, comment ça peut se jouer? Est-ce que c'est plus feutré comme opposition?
Alors en Europe, effectivement, on vit quand même dans des sociétés qui sont beaucoup plus pacifiées, où les armes sont plus feutrées, exactement. Donc non, personne ne risque l'assassinat, évidemment, mais par contre la répression légale rôde, on va dire. Et oui, alors il y a un fort soutien de la population, effectivement. Par contre l'entreprise qui compte s'installer dans la forêt est pas ravie. Et a déjà engagé des poursuites légales. Donc on a reçu mi-décembre un premier avis d'expulsion par huissier. Donc c'est un papier très officiel qui nous demande gentiment de quitter les lieux. On va nous envoyer la police. Il y a eu une fausse alerte entre guillemets dans ces eaux-là d'ailleurs, où une manifestation devait se tenir à Arlon, elle a été annulée, mais il y a quand même eu un important dispositif policier qui a été développé ce jour-là et qui n'a pas servi à grand-chose d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas eu de manifestation. Mais voilà, il y a eu quand même plusieurs combis avec les fédéraux de Bruxelles qui sont descendus jusqu'à Arlon, qui sont restés autour de la ZAD, qui ont fait un barrage filtrant. Il y a un hélicoptère qui avait été réquisitionné, qui tournait autour de zone et ça n'a pas été une expulsion, mais il y a quand même eu cette démonstration de force du bras de la répression qui est là et qui est capable de s'abattre. Et il y a quand même eu ce jour-là des prises d'identité, du fichage. Dernièrement, ça a été moins présent, mais au début, il y avait un drone, souvenant, qui venait tourner. Il y a des voitures qui sont à l'entrée, qui prennent des photos, des vidéos, donc qui fichent les gens, qui prennent leur visage pour ensuite, le moment venu, donc pouvoir dire « Ah, ce jour-là, on vous a vu, vous étiez là, vous étiez présent. » Et quant aux conséquences légales, c'est très flou, même pour nous d'ailleurs, puisqu'on n'est pas forcément des experts... en termes de droit, on sait qu'on peut avoir des peines judiciaires, il peut y avoir des amendes, du sursis. On sait par exemple qu'en France, quand la ZAD de Kolsenheim a été évacuée en août dernier, il y a des gens qui ont pris de la prison ferme, par exemple. Donc non, effectivement, en Europe, on ne risque pas encore, a priori, sa vie à défendre la terre. Mais il y a tout cet arsenal légal qui peut s'abattre. Et on ne sait jamais comment peut évoluer la situation si les rapports se tendent et escaladent. Qui sait vers quoi ça peut aller.
Voilà, si je peux juste ajouter, même quand on partageait un peu des mots, on avait dit... que peut-être la répression ici, on peut regarder un peu qu'est-ce qui se passe quand les gouvernements commencent à être plus cyniques, comme dans d'autres pays, comme c'est voir beaucoup fois notre pays, comme Latino-Amérique, dans toutes les régions de Latino-Amérique, tous les continents, on peut même voir qu'est-ce qui se peut passer, comment est-ce que la répression peut arriver à se voir quand les gouvernements commencent à être plus cyniques, sans peur de répercussions, sans peur de que quelque chose les passe pour commencer à actuer et prendre les actions nécessaires pour imposer, pour voilà, faire arrêter les mouvements. Et ça, ce qu'on avait dit aussi, c'est très, très fort lié.
Ouais, juste rajouter à ça que ça peut aller très vite, en fait. On croit toujours qu'on est dans des états très démocratiques qui n'arriveraient jamais à tuer, mais par exemple, le Chili se vantait d'être une puissance démocratique et économique en Amérique du Sud, et d'un jour à l'autre, il a suffi que des gamins de 15 à 18 ans passent le métro gratuitement pour qu'ils commencent à avoir des assassinats, de la torture, des disparitions, et les mêmes mécaniques qu'on trouve en dictature, donc... À la fin, ça peut aller très très vite. Il n'y a pas vraiment d'excuse à ça. L'État, pour maintenir son pouvoir, il est prêt à tout. Ça, il n'y a pas de doute à ça, quoi.
Et même ici, on se rappelle, Semira Adamou, c'est aussi un cas de d'assassinat.
Mais c'est pour ça, et ça peut aller très vite, ouais. En fait. Mais ici, ça va aller aussi vite que là-bas, si nécessaire.
Marie, oui, là-dessus, je voulais juste revenir une seconde quand je disais effectivement qu'on risque pas encore sa vie. Non, c'est pas vrai. On se rappelle de Rémi Fraisse à la ZAD de Sivens en 2015. Mmh. Et oui, on voit par exemple en France, qui est quand même voisin de la Belgique, que voilà. Donc il y a quelques années, des lois avaient été passées pour rendre des capacités oppressives de l'État.
Un petit droit.
Oh. Voilà. Donc, à l'époque, ça avait été déployé contre des populations de quartiers populaires, donc tout le monde s'en fichait un petit peu. Et maintenant qu'il y a des vrais mouvements sociaux, on voit que voilà, les lois antiterroristes passées à l'époque, aujourd'hui, s'abattent sur n'importe quel citoyen qui va contester la politique du gouvernement, quoi. Donc effectivement, vous disiez, on a l'air d'être dans des sociétés pacifiées où il y a un état de droit, mais non, du moment où vient une contestation sérieuse, la répression et le bras armé est là, quoi.
Et justement, ici, on a évoqué la ZAD d'Arlon. Il y a d'autres convergences aussi qui peuvent se faire, d'autres mouvements qui, justement, répondent aussi à ce désir de retisser un lien avec le territoire, mais de manière aussi conçu comme un territoire de vie. Et qu'est-ce qu'on considère être le territoire?
Le territoire. Et oui, bien sûr, je crois que on suit un peu l'exemple des, pas seulement de les ZALN et les congrès nationaux indigènes, mais de beaucoup de luttes qui se passent dans le monde entier, et que les gens, ils sont commencés à travailler, à lier leurs différentes luttes, parce que même dans les peuples originaires, on a des différents peuples qui sont de objectifs différents, de problématiques différentes, et c'est pas facile de faire une convergence, c'est pas facile de venir et commencer à parler de qu'est-ce que c'est important, qu'est-ce qu'on veut comme objectif, c'est quel notre canal, notre façon de faire la chose et des luttes. Mais ça, ce qu'on trouve assez impressionnant, et c'est quelque chose qui nous fait un peu se bouger aussi depuis ici, c'est que voilà cet exemple de convergence, de commencer à identifier lesquels c'est l'objectif plus grand de tout ça. Et aussi, voilà, c'est quel notre objectif en commun. Ça, c'est une chose qui nous a fait bouger. Et c'est pour ça qu'on a pris à cœur cette mot de les congrès nationaux indigènes et aussi de l'ESZALN, que c'est cette lutte, c'est pour la vie. Nous a commencé à dire, nous luttons pour la vie. Parce que lutter pour la vie, ça veut dire, c'est une lutte anticapitaliste. C'est une lutte antipatriarcale. C'est une lutte anticolonialiste, c'est une lutte antinéolibérale, parce que tout ce genre de système, c'est une lutte anti-État, c'est une lutte pour l'autonomie, pour la liberté, pour l'auto-organisation, pour la communauté, pas d'individualisme, c'est vraiment ouverte à les mondes différents que les sapatistes parlent, que les sapatistes ont construit et continuent à construire plus en plus endroits séparés, plus qu'à la collège, qui maintenant, voilà, ils ont pris un autre nombre. Mais voilà, cette monde, ça se passe, c'est pas seulement dans le sud du Mexique, mais dans différentes communautés qu'ils sont obligés à se défendre. Et partout, partout dans le monde, il y a beaucoup de mondes différents qui est déjà, voilà, ils sont là, quoi. Alors, oui, bien sûr, pour nous, c'est très important de commencer à réfléchir par rapport à, bien sûr, il y a beaucoup de projets ici, ça c'est clair, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de trucs qui se passent, et il y a beaucoup de communication entre mouvements, ça on peut les regarder, et bien sûr, ça ce qu'on a envisagé, c'est de venir avec cette philosophie de convergence plus forte, parce que comme avec les mots de Marie Chui, c'est ces mouvements qui commencent à faire de communauté, qui gagnent, quoi. Alors, c'est pour ça qu'on trouve que c'est important d'identifier les luttes plus grandes de tout, que c'est lutter pour la vie. Et voilà. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose.
Sinon, je propose de faire une autre pause musicale, si vous avez de quoi proposer.
Ouais, on a justement une petite chanson sur la Zablière.
Alors, il y a un hymne qui a été composé à la Zablière qui s'appelle l'Arlonaise. Et il y a un enregistrement qui a été fait sur place, en fait, dans les moments où, après le travail, tout le monde chante au coin du feu.
Voilà. Eh bien, super, on écoute ça, mettez le son.
Médite. Que nos rêves sont purs et nous n'avons pas peur des guépis. Oh vache, oh moro condé, vive les enfants de la ZAD, abrace ta sûreté. Pas de grâce, non pas de pitié, des cocktails molotov contre leur char blindé. Je me souviens très bien de ma première manif. J'étais gentil tout plein, bon citoyeniste. Jusqu'à mon premier poivre, en plein dans les deux yeux. J'étais plus pacifiste, mais bien vénère contre eux. Mort aux vaches et mort aux condés. Vive les enfants de la ZAD, la basse de la sûreté. Pas de grâce, non pas de pitié. Des cocktails molotov contre leur char blindé. Moi qui étais plein de colère et sans résignation, qui voulait tout changer, trouver des compagnons. J'en ai vu défiler des organisations pour la contestation qui va tourner en rond. Hey. Mort aux vaches et mort aux condés. Vive les enfants de la ZAD, la basse de la sûreté. Pas de grâce, non pas de pitié. Des cocktails molotov contre leur char blindé. Depuis de squat en squat et en occupation, j'ai aimé mes copains, connu la répression. Révolté d'aujourd'hui, faites bien attention. Pour un simple gilet, on vous fout en prison. Mort aux vaches et mort aux condés. Vive les enfants de la ZAD, la basse de la sûreté. Pas de grâce, non pas de pitié. Des cocktails molotov contre leur char blindé. Un mort d'enterrement, 300 à distance. Et 300 gilets jaunes me porteront en France. Et dans le cortège de tête, on criera très fort. Si elle n'était pas morte, elle lutterait encore. Et mort aux vaches et mort aux condés. Vive les enfants de la ZAD, la basse de la sûreté. Pas de grâce, non pas de pitié. Des cocktails molotov contre leur char blindé. Des cocktails molotov contre leur char blindé.
Voilà, c'était donc l'Arlonnaise, c'est ça, j'ai bien retenu. Oui. Donc c'était la chanson composée à la ZAD d'Arlon. Et donc avant cette pause musicale, on évoquait la convergence des luttes et donc le fait que cet appel aussi, c'était un appel à action internationale. Et donc il y a eu différentes choses qui se sont mises en place déjà.
Oui, oui, il y a différentes choses qui se sont mises en place. Enfin, ça donne des plaisirs, ça donne de l'espoir. Il y a des événements qui se passent dans le monde entier. Il y a des événements dans 9 pays différents. L'Allemagne, en Grèce, Espagne, Dinamarque même. S'il y avait eu une manifestation en face de l'ambassade du Mexique et en lecture d'une carte qui demandait de justice pour Samuel Flores. Et aussi en Mexique, il y a des mouvements des événements qui dans une 20e des États différents au Mexique. Alors il avait beaucoup de réponses et ça c'est chouette. Aussi même les congrès national indigène et les conseils indigènes de gouvernement comme les SETALN, ils ont fait des événements, des activités. Je crois que les activités Il faut parler de ça parce que c'est pas un truc, un événement qui se passe assez souvent, c'est que les congrès national indigène ils sont marchés dans les rues de la ville de Mexique pour visibiliser l'assassinat de Samir, mais aussi pour parler de la position contre les mégaprojets. Et il faut dire que dans ces campagnes, dans différentes actions qui sont passées au Mexique, la police, il a montré une répression forte. Ils sont encarcelés.
C'est ce qu'on sait.
Encarcelés. Ouais, différents membres du Congrès national indigène au Mexique quand la marche s'est passée, elle est passée 23 février. Ils sont encarcelés à différents membres. Ils sont les arrêtés dans les rues. Ils sont les encarcelés. Ils demandaient une extorsion. Ils demandaient de l'argent. Et grâce à la mobilisation des citoyens, parce que heureusement, les congrès national indigène et cet ALN, ils sont beaucoup de réseaux de résistance et rébellion. Et lesquels, n'importe quel besoin, ils commencent à envoyer et les gens commencent à se mobiliser. Alors, grâce à cette organisation, beaucoup de gens arrivaient à la station de police et commençaient à demander la liberté de les camarades de les congrès national indigène. Mais même au Chiapas, les camarades de l'ESTALN, ils sont arrêtés pour mettre des affiches contre les projets. Ils sont arrêtés directement pour la part des gouvernements au Chiapas, que c'est le gouvernement de Morena, que c'est le parti politique du nouveau président du Mexique. Enfin, pas nouveau à ce moment-là, mais enfin, voilà, AMLO. Que c'est toujours... Alors, il faut dire aussi qu'il y a une forte intimidation que ça se passe dans ces périodes de AMLO et même la journée pour la vie, pour la défense de la terre. Ils sont vigilés, les gens qui participent, et la police, il n'a pas peur pour arrêter les gens et commencer à... les gens sont là pour réagir et pas permettre qu'autre chose plus tragique se passe. Et ça c'est comment se passe avec cet appel pour l'instant.
Du coup, nous, pour répondre à cet appel, on organise cet événement ce samedi 29. Ça va être au quai. Au quai, c'est à Molenbeek, il me semble que le quai du Hainaut, près
juste
du métro Comte de France.
Juste sur le canal.
Oui, voilà, juste sur le canal. C'est un espace assez amusant, qui est très beau, qu'on a été visiter. L'événement va être une journée. Notre idée, c'était de partager, de converger dans la lutte et de présenter justement différents projets et organisations qui, ici en Belgique, occupent le territoire d'une façon différente, à des fins plus ou moins militants, plus idéalement. et du coup de partager toutes nos expériences pour pouvoir tomber sur une deuxième journée et commencer à s'organiser entre nous, s'écouter. On trouve que dans cette première journée, l'appel principal est à s'écouter principalement. On a invité plusieurs organisations et on finira avec un peu de musique évidemment parce que tout dans la bonne humeur est beaucoup plus amusant et la rébellion doit être faite dans la joie et dans la danse. Il y aura aussi plusieurs activités ce jour-là parce qu'une activité politique à longue durée, on sait que c'est un peu fatigant, donc on va présenter aussi des marchés créatifs pour partager le terrain avec d'autres camarades de lutte. Il y aura plusieurs activités différentes. Et je vais peut-être mentionner les collectifs qui vont participer avec nous parce que c'est très important. Il y aura la BAP, c'est les Brigades d'Action Paysanne. On a aussi invité Occupons le Terrain, il y a Getting the Voice Out, il y a le Comité Généalogie, et aussi on aura des membres de la ZAD qui vont pouvoir venir nous parler de leur expérience. Ensuite, il y a aussi de Groentelaar, qui est un peu un réseau paysan néerlandophone. Et on aura le RBDH, que c'est le Rassemblement Bruxellois pour le droit à l'habitat. Et on aura aussi d'autres collectifs comme Rhizome qui viendront nous parler de leur organisation. Il y aura aussi Boren Forum. Bon, en néerlandais, c'est pas le top, mais plein d'organisations qui, à la fin, ont comme objectif se réapproprier le territoire et commencer à construire un monde différent parce qu'on en a vraiment besoin.
Et du coup, si j'ai bien compris, c'est vraiment l'objectif de cette journée aussi, c'est de pouvoir se réapproprier collectivement cet appel et pouvoir créer quelque chose qui perdurera
exactement,
dans le temps.
On espère que ça va pouvoir perdurer dans le temps, qu'il y a de beaux liens qui vont se créer, un contre-pouvoir qui va naître, évidemment, bien sûr, qu'on est en train de construire, on espère.
Et du coup, c'est vrai qu'il y a une richesse actuellement, on sent qu'il y a une activité, une effervescence qui...
Ouais, il y a peut-être un besoin qui est en train de se partager partout dans le monde. L'autre jour, j'étais en train de me promener ici dans la rue et j'ai vu un arbre qui était en train de fleurir et je me suis dit que, bien que c'est très beau, hein, ce n'est pas très normal. Oui. Et donc, je crois que même dans les villes, on commence à sentir que le monde, il commence à changer et on ne croit pas que ça va dans une très bonne direction. Donc, je crois que tout le monde commence à se sensibiliser partout.
Tout à fait.
À tout ce qui se passe.
Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi, des liens, des pages, des réseaux sociaux,
oui. Bien,
des points de rencontre au-delà? Donc on rappelle, c'est à partir de 15h, hein,
Oui, c'est ça. Je crois que c'est aussi pertinent de mentionner qu'il va y avoir une exposition de lutte internationale et que les collectifs aussi de Las Insumisos, il va être partie de ça.
Ouais, il va parler du conflit Mapuche et le conflit chilien qui est en ce moment qui est aussi très effervescent là-bas. Mm-hmm. C'est un comité chilien, donc ils vont nous présenter aussi... de la nourriture, de la bouffe typique chilienne qui pourront nous partager. Et tout l'argent récolté ira vers la lutte au Chili, qui en ce moment, pour que tout le monde sache, n'est pas du tout fini, au contraire.
Et donc on ne doit pas venir avec son casse-croûte.
Ouais, c'est ça.
Tout sera en solidarité dans cet événement. Donc,
ramener de cash.
Ouais.
Du coup, l'événement, il se trouve sur Facebook, il s'appelle Journée pour la défense de la Terre, et dessus, on retrouve des liens vers tous les collectifs qu'on reçoit, et voilà, là-bas, il y a déjà pas mal d'informations, quoi.
Et Marine, il y a aussi une page pour la ZAD,
ouais.
Et si on veut aller vous rendre visite à Arlon et participer et se mobiliser.
Ouais, il y en a même plusieurs. Il y a une page donc Zablière ZAD d'Arlon pour présenter les activités. Il y a une page pour trouver du covoiturage et il y a une page pour la collecte et toute la solidarité.
Ok. Bien, merci à tous les trois d'être venus présenter et évoquer un peu les apatistes, la terre-mère et cette solidarité mondiale. Est-ce que vous voulez terminer en musique ou bien je...
Oui, on a peut-être un petit dernier morceau. C'est, ça vient du Chili, d'un groupe punk, on va dire, qui s'appelle La Floripondio. Et c'est, voilà, c'est un groupe très important qui crache tout, toute leur expression et toute leur rage qu'ils ont eu au fil des années. Et donc, on va passer, on va terminer pour se réveiller un peu avec « Si es necesario matar al presidente ».
Eh bien, si c'est nécessaire, hein, voilà. Merci, merci à vous,
merci
et à samedi en tout cas.
À
et
samedi.
On écoute ça.
À samedi.
Allez.
Voilà, eh bien, si nécessaire, on tuera le président. Ici aussi, si nécessaire, on tuera le président. Merci encore, Marine, Joachim et Pauline, d'être venus.